Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Constance Bien-Aimée, je suis l'organisatrice de ce printemps des sciences humaines et sociales et je prends brièvement la parole pour vous donner quelques indications pratiques. Alors, cette rencontre se fera en deux temps. Tout d'abord, une conversation, un entretien entre Gabriel Radica et Rémi Beau pendant à peu près 45 minutes, qui seront suivis d'un temps d'échange avec le public. Et pour Je vous invite à nous faire remonter vos questions via le fil de discussion instantanée, donc en cliquant sur Converser, et ce, dès que vous le souhaitez pendant la rencontre. Voilà. Je cède maintenant la parole à Gabriel Radica et à Rémi Beau, que je remercie vivement pour leur participation.
Merci beaucoup, vraiment Constance, bravo d'être parvenue à terme de cette organisation. On est très fiers pour toi et je suis ravie que tu m'invites pour discuter avec Rémi Beau. Donc je vais d'abord le présenter brièvement et puis ensuite je le laisserai parler. Alors Rémi Beau, je me demande pourquoi il n'y a pas mon écran qui apparaît au centre, c'est normal?
Moi, je te vois, Gabriel.
Voilà, d'accord, ok. Alors, Rémi Beau, vous êtes chercheur au CNRS, à l'Institut d'écologie et de sciences de l'environnement de Paris, UMR 76-18, qui est rattaché à la Sorbonne Université. Les recherches que vous développez sont au croisement de la philosophie et de l'écologie, et vous avez fait auparavant des études d'ingénieur, puis de philosophie, réalisé un doctorat sous la direction de Catherine Larère, qui s'intitule Éthique de la nature ordinaire, dont le livre dont nous allons parler aujourd'hui est issu et qui est paru aux presses de la Sorbonne 2017. Vous avez également fait paraître avec Catherine Larère toujours un collectif qui s'intitule Penser l'Anthropocène, hein, c'était des actes d'un colloque qui avait l'air très intéressant. Et on trouve donc dans vos travaux, en particulier dans ce livre, une réflexion sur l'attention aux plantes ordinaires, qui sera le thème de la réflexion d'aujourd'hui. Et en fait, juste quelques remarques sur cette expression attention aux plantes ordinaires. On entend deux choses, en fait, la conjonction de deux thématiques qui ont suscité des réflexions philosophiques récemment. Tout d'abord, une réflexion sur l'attention, hein, c'est-à-dire que de plusieurs horizons, de plusieurs perspectives, il y a eu une demande philosophique croissante, justement d'un surcroît de réflexivité concernant notre propre attention. Hein, divers horizons philosophiques demandent que nous réfléchissions à la façon dont nous distribuons cette attention, dont nous pourrions la distribuer autrement. Et donc, ça engage une problématique d'éducation de l'attention, notamment contre les processus d'invisibilisation ou de méconnaissance. Or, ce déploiement du thème de l'attention, on le trouve en morale, en politique, dans des problématiques sociales de toutes sortes, hein. Et en fait, vous nous invitez à questionner cette thématique à propos de la nature. Donc, c'est intéressant déjà pour cela. Et puis, bon, la deuxième chose qu'on entend bien sûr là-dedans, c'est l'importance de la philosophie qui est actuellement aussi en développement, philosophie de la nature et philosophie de l'environnement. Donc, vous unissez ces deux choses ensemble. Et je vous invite donc à présenter les grandes lignes de votre livre aujourd'hui. Et puis ensuite, nous reviendrons un peu plus sur les plantes, puisque c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Voilà, c'est à vous.
Merci beaucoup Gabriel, et merci aussi beaucoup à Constance. Hein, j'insiste également pour tout ce travail d'organisation dans ce contexte bon, qu'on sait particulier. Donc effectivement, sur ce livre, c'est un livre issu des travaux de recherche que j'ai menés durant ma thèse avec Catherine Larère. Et en fait, bon, pour retracer assez brièvement les grandes lignes de l'ouvrage. Au fond, il naît de recherches menées dans un premier temps au sein du corpus de ce que Gabriel vient de désigner comme philosophie de l'environnement, et plus spécifiquement, je dirais, des éthiques environnementales de langue anglaise, puisque, pour dire quelques mots de ce courant, au moins lorsqu'on pense à cette philosophie anglo-saxonne, eh bien, le courant a pris le nom d'éthique environnementale. C'est une sous-discipline encore jeune du point de vue de la philosophie, puisqu'elle s'est développée dans les années 70. dans les années 70, où au fond, il s'agissait d'essayer de répondre à un certain nombre d'enjeux, en particulier des enjeux éthiques, que soulevait ce qui commençait à être appelé la crise environnementale. Et donc, pour examiner, en fait, assez généralement, quelques-uns des principaux enjeux liés à la dégradation des milieux naturels, sous l'angle notamment des relations que nous pouvons nouer avec les animaux, les plantes, les systèmes naturels. Et donc, il est question de plantes, mais il est question plus généralement, de nature dans ces recherches d'éthique environnementale. Alors, l'une des grandes questions, au fond, qui a animé le développement de cette discipline, portait sur le type d'obligation que l'on peut reconnaître, que l'on peut définir à l'égard de la nature, à l'égard des animaux ou des plantes, et surtout, plus spécifiquement, la question qui se posait, c'était de savoir si, pour reprendre la typologie kantienne, si nous avions des obligations directes à l'égard des animaux ou des plantes, c'est-à-dire des obligations définies au titre de la valeur intrinsèque de ces êtres, la façon dont ils comptaient pour eux-mêmes, et non pas simplement des obligations indirectes, c'est-à-dire des obligations qui pourraient être rapportées en dernière instance à des intérêts humains ou au respect de la dignité humaine. Donc, cette question, c'était savoir ce que nous devons, au fond, aux plantes, ce que nous devons sur le plan moral aux animaux ou encore aux ensembles écologiques, puisque c'est une diversité de façons de se poser cette question. Mais la particularité de ce débat et de ce corpus, c'est qu'il s'est focalisé, il a conduit à développer une réflexion sur la valeur intrinsèque, donc, mais la valeur intrinsèque d'une nature, du coup, pensée comme séparée des humains, spatialement séparée, c'est-à-dire une nature sauvage envisagée, alors on est dans un contexte principalement anglo-saxon, envisagée donc comme parfaitement indépendante des humains, et c'est le fameux terme américain de wilderness qui définit, qui caractérise cette nature sauvage. Et donc, pendant un bon moment, les éthiques environnementales se sont posées cette question de savoir si l'on pouvait théoriser la valeur intrinsèque de ces espaces sauvages. Or, cette idée de wilderness, elle pose beaucoup de problèmes, elle a fait l'objet d'un grand nombre de critiques, qui ont souligné en premier lieu la façon dont elle conduisait à occulter en particulier les usages précolombiens du territoire nord-américain. Elle s'inscrivait dans une sorte de mythe originel du Jardin d'Éden qui, au fond, n'avait pas de lien avec la réalité écologique de ces espaces sauvages. Donc, bref, il y a eu un certain nombre de débats à partir de cette critique de l'idée de wilderness. Et au fond, c'est dans cette lignée de ces débats que je me suis inscrit pour, disons, essayer de, pour caractériser hein, le grand projet du livre, c'était d'endosser une posture non anthropocentriste, c'est-à-dire qui visait à dépasser cette idée selon laquelle la morale n'est qu'affaire d'humains et seulement d'humains, que nos relations aux animaux, aux plantes, eh bien, ne concernent pas véritablement la morale, au fond. Mais non pas pour essayer de fonder la valeur intrinsèque de la nature sauvage, plutôt pour m'intéresser à nos interactions, nos relations avec la nature proche ou ce qui apparaît dans le titre, la nature ordinaire. Donc, essayer d'adopter cette posture non anthropocentriste pour revenir sur un certain nombre de nos pratiques qui engagent des animaux, qui engagent des plantes, et essayer de décrire la façon dont ces pratiques font droit, reconnaissent ou non des formes d'altérité incarnées par ces êtres avec qui nous interagissons. Et donc, ça m'a conduit au fond à m'intéresser à un certain nombre de pratiques, en particulier à l'agriculture par exemple, mais aussi à des pratiques de gestion de la nature, de protection de la nature, ou encore des pratiques de jardinage. Et en fait, c'est ce à quoi renvoie le sous-titre de l'ouvrage, qui est Recherche philosophique dans les champs, les friches et les jardins. Eh bien, c'est pour indiquer cette envie de mener une sorte de d'enquête théorique sur certaines de nos pratiques en adoptant cet angle non anthropocentriste. Donc voilà pour la caractérisation un peu du projet du livre.
D'accord, merci beaucoup. Alors effectivement, j'ai oublié, pardon, je voulais lire le sous-titre et puis j'ai oublié de montrer le bel objet, l'éthique de la... Bon, c'est une taille importante, pardon, j'ai oublié de le faire. Alors moi, ce que je vous proposais, on était d'accord pour dire que ce texte nous intéressait tous les deux. En vous lisant, j'ai pensé à un autre petit texte de Thoreau qui est très intéressant parce que justement c'est le texte d'un Américain, mais qui n'illustre pas ce que nous pensons des écologies américaines, de la wilderness. Et ce texte-là très important, c'est Les pommes sauvages. C'est un petit fascicule qui est paru à part entière. Et il me permettra de passer à mes trois premières questions. Et puis, si on a fini au bout de trois questions, c'est pas grave. On passera aux choses suivantes. Alors, donc voilà, cet extrait de Thoreau, Les pommes sauvages. Il est frappant de voir à quel point l'histoire du pommier est liée à celle de l'homme. Les variétés qui sont maintenant cultivées ont très probablement été introduites en Grande-Bretagne par les Romains, par les Romains, pardonnez-moi. Pline, qui adopte la distinction faite par Théophraste, écrit: Parmi les arbres, il y a ceux qui sont tout à fait sauvages, sylvestres, et ceux qui sont plus civilisés, urbaniores. Théophraste inclut le pommier parmi ces derniers. En vérité, c'est en ce sens le plus civilisé des arbres. Il est aussi inoffensif qu'une colombe, aussi beau qu'une rose et aussi précieux que le menu et le gros bétail. On le cultive depuis plus longtemps que tous les autres et il est ainsi plus humanisé. Qui sait peut-être si on finira, comme c'est le cas du chien, par ne plus retrouver ses origines sauvages. Ça, c'est le pommier civilisé. Et à côté de ces arbres pommiers civilisés qui sont presque, enfin, qui ont accompagné l'homme depuis le procès de civilisation, Thoreau trouve en se promenant des vergers sauvages. Il utilise le mot verger, j'ai même mis du temps à comprendre qu'il s'agissait de vergers sauvages, puisque pour moi, verger voulait dire espace délimité par l'homme et cultivé par l'homme. Donc ce qu'il appelle verger, là, ce sont des zones où poussent des pommes et des pommiers au milieu des pins, sur un talus, etc. Et voilà ce qu'il en dit. Et ça fait écho à vos arguments. Gravissant le flanc d'une falaise aux environs du 1er novembre, j'ai vu un jeune pommier vigoureux dont les graines avaient été plantées là par les oiseaux ou par les vaches et qui avait poussé parmi les roches ou les étendues boisées. Il avait alors beaucoup de fruits que le gène n'avait pas endommagés, alors que toutes les variétés cultivées avaient été cueillies. Un petit peu plus loin, le propriétaire ignore tout de lui, le propriétaire des arbres cultivés juste à côté. Personne n'a remarqué le premier jour où il a fleuri pour la première fois, ni le jour où il a donné ses premiers fruits, sauf peut-être la mésange à tête noire. Et voilà ce que dit encore Thoreau. Lorsque je passe devant cet arbuste sauvage et intrépide et que je vois ses fruits pendant aux branches, je respecte l'arbre et je suis reconnaissant envers la nature pour sa libéralité, même si je ne peux pas les manger. Et en effet, ces pommes ne sont plus comestibles faute de soins. Elles sont le résultat d'un passage donc des arbres cultivés à la nature sauvage. Ils rivalisent avec l'indépendance et l'esprit d'entreprise de l'homme. Lui aussi, ce pommier sauvage, a émigré et a dû se frayer un chemin parmi les arbres indigènes, tout comme le bœuf ou le cheval retournent parfois à l'état sauvage et subviennent très bien à leurs besoins. Et enfin, pardon, j'en ai bientôt fini, mais il est très beau ce texte, notre pomme sauvage, néanmoins, n'est sauvage que comme moi, qui n'appartient pas à la race autochtone et suis partie de la souche cultivée pour m'égarer dans les bois. Voilà. Et alors, en fait, ce texte va nous permettre d'aborder plusieurs thèmes de votre ouvrage. Et il y en a un d'abord qui est qu'on voit tout de suite, qui est celui de la cécité des cultivateurs et des agronomes à certains aspects de la nature qui pourtant est vraiment sous leurs yeux. Et après, je vous laisserai la parole un peu plus longtemps, mais ça méritait quelques lectures préliminaires pour qu'on voit de quoi vous parlez aussi. Et là, cette fois-ci, c'est vous que je vais citer. Page 155 de votre ouvrage, vous citez une histoire dont vous dites qu'elle est très connue, peut-être dans la littérature de philosophie de l'environnement, concernant cet agronome anglais Arthur Young, qui voyage en France, lors d'un de ses voyages en France, et s'exclame, je cite, « Mon Dieu, toutes ces langues… » Donc, il voyage en Bretagne. « Mon Dieu, toutes ces landes, ces déserts, ces bruyères, ces genêts épineux, ces trous et ces marais fangeux que je viens de parcourir pendant 100 lieues. » Bon, il est horrifié, hein, d'après ce que vous semblez dire. « Partout dans la région, l'auteur voit la domination de l'inculte et en conclut à la médiocrité de l'agriculture qui y est pratiquée. » Et vous citez une commentatrice, Annie Antoine, qui dit la chose suivante, et donc ça fait partie de cette éducation, cette transformation du regard que vous prenez, et c'est là-dessus que je vous interrogerai. Ce faisant, Arthur Young passe à côté de la rationalité des systèmes bocagers traditionnels, assimilant ajoncs, genêts et mauvaises herbes, ignorant le rôle de pâturage d'appoint et de ces faux incultes qu'il croit être inutiles. Une observation plus profonde des systèmes agraires lui aurait certainement fait découvrir qu'une partie au moins de ces pays de bocage sont des pays d'élevage qui ne sont pas tous aussi peu productifs qu'il semblait le penser. Elle lui aurait également montré que l'assolement dit biennal, jachère seigle, est loin d'être la règle générale et qu'il existe des multitudes de possibilités parfois très ingénieuses en pays de bocage. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ces différentes cécités qu'on a vis-à-vis des aspects de la nature? Je parlerai après de l'ensauvagement, en fait. Pour le moment, c'est là, cet aspect-là. Merci beaucoup. J'éteins le micro.
Non, c'est moi qui vous remercie pour le rapprochement entre ces deux passages. En fait, effectivement, la question que je me posais par rapport à ce changement de regard sur la nature ordinaire, au fond, c'était se demander pourquoi il semblait devenu si difficile de développer une attention, de se montrer attentif à la présence au sein même des milieux que nous habitons en tant qu'humains, eh bien, d'êtres qui témoignent d'une certaine autonomie, de cette présence de figures d'altérité non humaine que l'on pourrait reconnaître. Eh bien, il me semble que, au fond, si on essaye de remonter un peu à quelques-unes des sources qui permettent d'expliquer cette difficulté que nous avons à faire place à une nature spontanée ou autonome parmi nous, il y a la façon dont va se former, disons, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, un regard extrêmement négatif à l'égard de toute présence de d'une nature, disons, un peu hors de contrôle, insuffisamment maîtrisée, sur des territoires qui devraient être, selon, en tout cas, ce que l'on trouve dans certains discours savants, ceux des agronomes, des physiocrates, des forestiers, qui devraient être mis en valeur, sous-entendu, qui devraient être mieux travaillés qu'ils ne le sont. Et donc, à partir de là, on voit dans ces discours, on repère des critiques extrêmement fortes de ce que l'on peut décrire comme des terres incertaines, des espaces jugés, en tout cas décrits comme incertains, et que j'ai rassemblés sous la catégorie de friches. C'est dans ce sens que je me suis intéressé aux friches comme catégorie assez générale qui désigne ces milieux incertains qui ne sont, au fond, qui résistent à une forme de spatialisation du dualisme, c'est-à-dire de l'espace des humains d'un côté, l'espace de la nature de l'autre. Eh bien, les friches, ce sont ces espaces incertains qui témoignent à la fois de dynamiques naturelles spontanées et puis de la présence d'usages humains. C'est aussi ce qui renvoie, je m'y réfère dans le livre, dans la trilogie agraire de l'Antiquité qui partage entre la guerre, l'espace cultivé, la silva, la forêt, les espaces boisés, et puis ce fameux saltus qui renvoie à ces espaces intermédiaires plutôt dominés par les herbacées et qui fait bien l'objet d'usage puisqu'il est, il est intégré à l'économie rurale, mais ce sont des espaces incertains. Eh bien, disons qu'on repère dans le discours des agronomes et des physiocrates, en particulier à partir de la fin du XVIIIe siècle, eh bien, des critiques extrêmement fortes de ce type d'espace. Et l'hypothèse que j'ai défendue dans le livre, c'est que cette dévalorisation des friches ou des terres incertaines eh bien, prépare en quelque sorte, historiquement, une forme de rupture avec la nature ordinaire. Prépare enfin, l'invisibilisation progressive de cette nature et au fond, conduit à transformer la façon dont on envisage certaines de nos pratiques, non plus comme des collaborations avec la nature, l'idée d'un faire avec que Catherine et Raphaël Larrère ont développé, et je crois qu'il y sera question aussi durant ce printemps, il sera question de cette idée du faire avec, mais en tout cas, l'idée qu'il y a une transformation du regard porté sur ces espaces, dans ce moment important de la fin du 18e, début du 19e, et que, ajouter à cela, alors là, c'est plutôt du point de vue des connotations morales et politiques de ces jugements portés sur ce qui serait de mauvaises pratiques agricoles, eh bien, on commence à associer également les paysans qui sont supposés mal mettre en œuvre leurs terres, au fond, mal faire leur travail. Donc, c'est notamment des jugements qui sont émis par, alors vous avez cité Arthur Young, mais effectivement, il y a une série d'agronomes qui traversent, hein, qui voyagent à travers la France pour observer la façon dont les terres sont mises en valeur. Le livre dont l'extrait d'Arthur Young, dont la citation d'Arthur Young est issue, ce sont les voyages en France, donc entre 1787 et 1790, pour s'assurer de l'état de l'agriculture, des richesses, des ressources et de la prospérité de cette nation. Et donc, c'est en tant qu'observateur de ces manières de faire que Young se pose, mais c'est le cas d'autres agronomes, et qui vont véritablement ajouter, au fond, une connotation morale à ces jugements, disons, techniques sur l'agriculture. Quelqu'un comme François de Neufchâteau, qui est un agronome, homme d'État, écrivain, parlera de l'opprobre des jachères en assimilant les jachères à la friche, mais aussi du déshonneur issu de la présence de friches sur une ferme, donc de terres qui sont insuffisamment cultivées, encore une fois, insuffisamment travaillées. Bon, on trouve une série de citations dans l'ouvrage qui vont dans ce sens-là. Il y a un agronome allemand en Alsace qui parle d'un crime contre la nature, d'une perte pour l'État, et pour tout dire en un mot, je le cite, hein, c'est une honte pour l'agriculture d'un pays civilisé que ces terres laissées au repos. Et donc, on voit bien qu'il y a cette idée qui est au fond une sorte, on peut inscrire ces discours dans le sillage eh bien, d'un Francis Bacon, par exemple, qui invite à étendre l'empire humain sur l'immensité des choses. Il y a vraiment cette idée qu'il faut forcer la nature, qui, si on la laisse au repos, si on la laisse, disons, tranquille, eh bien, est insuffisamment productive. Et par conséquent, il faut améliorer la nature, il faut la travailler, il faut la forcer à se montrer productive. Donc ça, c'est en fait une partie du travail qui consistait à aller rechercher bien, l'une des sources peut-être de ce regard négatif porté sur l'expression spontanée de la nature dans des espaces que l'on cultive, par exemple. Et puis, l'idée que je poursuivais dans le livre, c'est de voir comment, au fond, cette critique des friches, cette dévalorisation du sauvage parmi nous, en particulier du sauvage végétal, au sens qu'il s'agit là essentiellement eh bien de parler des champs, de parler de la végétation spontanée qui pouvait pousser sur ces espaces, eh bien, elle va être contestée, remise en cause, alors, à différents moments aussi, Un moment sur lequel on va revenir, qui va être la naissance de la pensée environnementaliste américaine issue du mouvement transcendantaliste. Alors ça, je vais y revenir dans un instant à propos de Thoreau. Mais aussi, le deuxième moment sur lequel je me suis penché, c'est à partir, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à partir des années 60, moment où la question des friches va être reposée dans un contexte très différent, qui est celui d'une forme de déprise, déprise agricole, du fait, au fond, de l'augmentation très forte des rendements agricoles, qui conduit certains espaces à être délaissés et qui voit réapparaître une végétation plus spontanée, qui va poser ouvrir tout ce débat sur la question de la fermeture des paysages, voit réapparaître un discours très négatif sur les friches, mais en contrepartie, également des auteurs qui vont se prononcer en faveur de ce qui va devenir la défense de la libre évolution de la nature, la défense de l'importance de laisser plus de place à l'expression spontanée de la nature. Et on y reviendra peut-être, mais c'est en ce sens que je me suis intéressé à un auteur qui fait un jardinier, paysagiste, écrivain, qui est Gilles Clément, qui fait figure de référence dans ce mouvement de revalorisation des friches. On peut penser aussi à l'écologue Jean-Claude Génaud et à Annick Schnitzler, qui ont écrit un très bel ouvrage sur cette France des friches et sur la façon dont peut-être il fallait regarder d'un autre œil ce développement des friches sur ces espaces de déprise. Et donc, j'ai suivi un peu cette reconfiguration des regards sur les friches, qui me semblait être un témoin intéressant de la façon dont on envisage cette nature sauvage et proche de nous. Et alors, cette nature sauvage et proche de nous, au fond, pour essayer de la penser philosophiquement, la référence pour moi qui s'est imposée et qui est assez incontournable, eh bien, c'est Thoreau, effectivement. C'est le transcendantalisme américain, donc ce courant de réflexion qui naît au XIXe siècle, qui apparaît comme l'un des premiers courants spécifiquement, de pensée spécifiquement américaine, dont les grandes figures sont Thoreau et Emerson, et qui ont cette spécificité de développer une réflexion très, très nourrie sur la nature et sur le sauvage, mais comme le rappelait l'extrait qu'a lu Gabriel, eh bien, contrairement à ce qu'on a pu souvent dire à propos de Thoreau et de ce transcendantalisme, cette pensée du sauvage, ça n'est pas seulement une pensée de la wilderness, pour le dire rapidement, c'est plutôt, c'est aussi, disons, parce qu'il y a bien une valorisation des espaces de nature sauvage, c'est quelqu'un comme Thoreau entendu à cette grande nature, mais c'est plus souvent la valorisation de ces êtres sauvages qu'il appelle nos voisins animaux ou nos voisins végétaux d'ailleurs, ces êtres qui au fond cohabitent sur les mêmes territoires que nous, qui suivent des trajectoires partiellement autonomes, qui poursuivent des intérêts qui leur sont propres, que nous avons, que nous ne voyons plus bien souvent, trop souvent parce qu'ils sont trop proches de nous. Enfin, très souvent parce qu'ils sont trop proches de nous. Et c'est tout le thème de la pensée de l'ordinaire de ce courant transcendantaliste que d'inviter à changer de regard sur le proche pour voir tout à coup surgir cette diversité d'êtres, cette diversité d'animaux, de plantes qui sont sauvages en ce sens qu'ils témoignent d'une indépendance à l'égard des humains, mais qui vivent, dans notre voisinage. Et donc, ce qui m'a semblé particulièrement intéressant chez Thoreau, c'est cette pensée d'une rencontre, et encore une fois, le livre sur les pommes sauvages est à ce titre parfaitement emblématique de cette pensée, d'une rencontre entre ce qu'il appelle le sauvage et le cultivé. Et en fait, cette idée, c'est que Il faut se situer entre les deux mondes. En fait, le meilleur se situe entre les deux mondes. Il y a vraiment cette idée chez Thoreau, qui est notamment... Il y a un passage célèbre de Walden, La vie dans les bois, donc ce récit de Thoreau de ces deux années passées dans une cabane proximité de Concorde, hein, où on a... alors maintenant, on a... Depuis qu'on se réintéresse à Thoreau, on a bien souligné le fait qu'il n'était absolument pas dans une nature sauvage très éloignée à la Into the Wild, comme on a pu parfois le penser. Il était vraiment à proximité de la ville. Et dans ce récit de ces deux années passées à Walden, Thoreau pense à propos du champ de haricots qu'il cultive, et il montre l'importance pour lui de situer ce champ au fond, à cheval entre ces deux mondes du cultivé et du sauvage. Je vous cite juste cette phrase, enfin ces deux phrases. « Mon champ était, pour ainsi dire, le chaînon reliant les champs sauvages aux champs cultivés, de même que certains États sont civilisés, d'autres à demi-civilisés, d'autres sauvages ou barbares. Ainsi, mon champ se trouvait être, quoique non pas dans un mauvais sens, un champ à demi-cultivé. » Et donc là, ce qui me semblait vraiment intéressant par rapport à la réflexion menée sur cette dévalorisation de l'Afrique, des espaces incertains, qui étaient dévalorisés parce que finalement c'était ni de la vraie nature sauvage, ni des espaces cultivés. Eh bien, Thoreau fait tout l'inverse. Pour lui, les espaces qui ont peut-être la plus haute valeur, ce sont ces espaces incertains entre le sauvage et le cultivé. On retrouve la même idée chez Emerson. Autre citation, et je m'arrête peut-être après là pour envisager d'autres questions parce que le temps passe, mais Emerson, dans La conduite de la vie, exprime très précisément cette même idée, donc un texte de 1860. « Tout ce qui est bon dans la nature et dans le monde réside dans ce moment de transition, quand les sèves brunies coulent encore abondamment de la nature, mais que leur astringence ou leur âcreté est éliminée par l'éthique ou par l'humanité. » Et donc, il y a vraiment cette idée du point de rencontre entre le sauvage et le cultivé qui leur semble être, cette excellence, en fait, dans les relations entre les humains et les animaux, les plantes, les milieux naturels. Je m'arrête ici pour qu'on ait le temps de prendre... continuer Merci. Notre échange.
Oui, je vais en poser encore quelques-unes, je ne poserai pas tout, c'est très bien si ça évolue comme ça, il n'y a pas de problème. J'invite même les participants, s'ils veulent commencer s'ils ont des questions qui méritent d'être rédigées, à commencer à les rédiger dans le chat, parce qu'on s'arrêtera dans 10 minutes. Ce que je voulais dire, c'est que cette rééducation des formations, tous les processus de changement du regard et de l'attention sont accompagnés de changement, d'un travail aussi sur les mots qui décrivent la nature. Et j'ai beaucoup apprécié le passage où vous rappelez en fait la vraie étymologie du mot jachère, qui n'est pas y acquérer, être là, se reposer, être allongé, mais qui est labourer. Et du coup, effectivement, tantôt une connotation de la fausse étymologie est moralement dépréciative, tantôt l'autre ne l'est plus. Donc ça, c'est très intéressant. Et effectivement, vous avez rappelé cette tripartition de l'espace humain, enfin du rapport humain à la nature, Silois, Aguerre, Saltus, et je pense que c'est Saltus qui est le moins connu, justement, ce terme, enfin, on voit bien le champ et la forêt, mais Saltus n'est pas connu. Donc effectivement, le rôle du langage pour le décrire, et évidemment un écrivain comme Thoreau prouve que c'est indispensable, que le regard s'éduque aussi en décrivant ce qu'on voit de façon plus ou moins intéressante et pertinente. Alors, il y a quelque chose qui mérite aussi d'être, pour ne pas, laisser l'impression que votre livre ne discuterait qu'avec les transcendantalistes, justement, est-ce que vous voudriez bien revenir à cette histoire de l'agriculture française à partir de 1945, qui en fait est quasiment les premiers éléments de l'étude, hein, qui constituent les premiers éléments de l'étude, et nous expliquer un petit peu ce que vous en avez tiré, ce que vous vouliez en faire, pourquoi commencer par là, plus particulièrement?
Alors, en fait, commencer par là, effectivement, ça renvoie plutôt au second, disons, de ces moments historiques qui sont un peu particulièrement travaillé dans le livre, enfin en tout cas sur lequel je me suis arrêté. C'est donc commencé à partir de 1945, bon, c'est le moment de la modernisation. De la modernisation de l'agriculture. C'est un moment, en fait, si on essaie de retracer cette continuité, au fond, dans la rupture, enfin, oui, c'est cette façon dont on peut retracer les sources de la rupture avec la nature ordinaire. Et puis, en fait, c'est véritablement avec cette modernisation que l'on parvient à une agriculture qui se trouve focalisée sur la guerre. Simplement sur les espaces cultivés, considérés comme un puits qui ne dépend plus des relations entretenues entre différents types d'espaces, par exemple avec le saltus, et qui ne s'appuie plus non plus sur, sur les, disons, la valorisation, enfin l'exploitation de synergies entre l'élevage et la polyculture, mais qui, sur la base de notamment le recours de plus en plus abondant aux intrants chimiques, eh bien, permet de faire une agriculture focalisée, monofonctionnelle, focalisée sur cet espace cultivé et qui, au fond, devient une agriculture qui ne témoigne de plus aucune attention à l'égard du vivant qui peut être présent sur ces champs, puisque le vivant devient presque, au fond, un ennemi à évacuer, en fait, à tenir à l'écart de ces champs. Et donc, repartir de ce moment-là, c'était aussi pour se poser la question des réorientations possibles de l'agriculture. Bon, la question, c'était de se dire aussi, avec une exigence un peu, bon, disons, pragmatique, de se dire, au fond, qu'est-ce qu'une éthique de l'attention, qu'est-ce qu'une éthique environnementale peut nous dire des réorientations de l'agriculture, là où on voyait, au moment où j'écrivais le livre, on voyait fleurir une série, depuis un moment déjà, une série de propositions visant à développer ce qui serait des agricultures durables, des agricultures raisonnées, une série d'appellations. Et donc, l'idée que je voulais suivre, c'était d'essayer d'examiner ces différentes propositions de réorientation de l'agriculture à l'aune d'une éthique de la nature ordinaire qui essaye d'évaluer la façon dont ces propositions marquent la reconnaissance ou non d'une altérité non humaine, marquent ou non, s'inscrivent ou non dans un modèle de coopération avec le vivant, plutôt que de l'action sûre ou de l'instrumentalisation. Et donc, c'était une façon d'essayer d'examiner quelles implications pratiques on pourrait tirer de cette éthique de la nature ordinaire. Ça m'a conduit à m'intéresser aux différentes pratiques rassemblées sous l'appellation d'agroécologie, et puis aussi à revenir sur certaines propositions que l'on nomme agriculture biologique, et au fond, là aussi, il y a une diversité d'agriculture biologique, et revenir un peu à quelques-uns des fondateurs de l'agriculture biologique, parce que cela permettait de constater que l'agriculture biologique, ça n'est pas juste une agriculture qui consiste à se... Enfin, en tout cas, ça n'est pas seulement une agriculture qui consiste à se passer d'intrants, de certains intrants chimiques, mais c'est aussi, pour certains auteurs qui ont théorisé l'agriculture biologique, une façon de se positionner par rapport à la nature, et autrement dit, une éthique. Une éthique, d'une certaine façon, une éthique de la nature. Et c'est pour ça, par exemple, je me suis intéressé en particulier à Albert Howard, qui est cet agronome anglais, qui est l'un des fondateurs de l'agriculture biologique, disons l'agriculture organique, dans le contexte anglais. Et ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est que ce dont témoigne Albert Howard dans ses propositions d'agriculture, de réorientation de l'agriculture, et on trouve notamment dans son principal livre un testament agricole, le Testament agricole, qui est un livre paru en 1940, eh bien, c'est la façon dont il insiste sur l'importance de se montrer attentif aux réponses du vivant dans les espaces cultivés. J'avais noté une citation qui va dans ce sens-là. Howard écrit « La réponse des cultures et des animaux à des améliorations de la condition du sol doit être attentivement observée. Ce sont nos plus grands et nos plus profonds experts. Nous devons les regarder au travail, nous devons leur poser des questions simples, nous devons faire de leurs réponses des études de cas similaires à celles que Darwin a mises en place pour étudier les vers de terre. Les insectes, les champignons et les autres micro-organismes qui attaquent la plante et l'animal sont d'autres agents aussi importants de la recherche. Ce sont des senseurs de la nature pour indiquer de mauvaises pratiques agricoles. Actuellement, la règle est de détruire ces agents inestimables et de reproduire les cultures inefficaces et les animaux qu'ils essayent de faire partir. Demain, nous devrons les regarder comme des professeurs naturels d'agriculture et comme un élément essentiel de tout type de système de culture rationnelle. Et alors là, je trouvais vraiment chez Howard un écho absolument saisissant par rapport à cette éthique de l'attention, et qui est là beaucoup plus qu'une simple transformation d'un modèle technique, comme on le voyait apparaître dans certaines propositions d'agriculture, certaines propositions institutionnalisées de réorientation de l'agriculture sous l'appellation d'agriculture durable ou agriculture biologique et industrielle, ce qui, pour quelqu'un comme Howard, est un contresens parfait.
Oui, merci. C'est vrai que c'est un aspect du livre qui apparaît un peu plus tard, les différentes propositions agricoles qui sont données, que vous étudiez. Ça, c'est très intéressant aussi dans le livre. Alors, bon, il y avait deux, trois thèmes avant de passer aux questions du public. Bon, la question de l'ensauvagement, je voulais en parler, mais bon, avec ces pommes et puis ces pois, on a peut-être un peu évoqué la chose. Peut-être éventuellement la question de, est-ce qu'il y a un traitement différent de la flore ordinaire et de la faune ordinaire dans ces pensées, dans vos arguments? Est-ce que la flore reçoit un traitement particulier? Et puis je dis directement ma dernière question, et c'est vous qui mettrez le coup d'arrêt et le passage à la discussion avec le public. C'était donc une question parce que vous en appelez à essayer de réduire la différence entre le paysan et le jardinier. Il y en a un qui comprendrait tout à la nature, l'autre qui serait un gros bourrin, en gros. Hein. Enfin, vraiment, je suis désolée. C'est un peu ce que vous voulez déconstruire comme image. Un gros bourrin qui ne regarde pas suffisamment la nature autour de lui. Et en fait, peut-être qu'une façon de présenter leur commun intérêt pour la nature et la façon commune dont ils peuvent procéder, c'est de questionner le rapport au temps, hein, en fait, c'était ça la question. Est-ce que le jardinier, tel qu'en parle Gilles Clément, tel que vous en parlez parfois, et est-ce que le paysan n'ont pas comme point commun de s'intéresser à la nature comme ensemble de processus qui mettent du temps à répondre, hein, comme vous avez dit parfois. Voilà, donc l'opposition peut être tant long, tant court. Donc la spécificité de la flore par rapport à la faune, et puis cette question du temps. Et puis je m'arrête. Vous avez quelques minutes avant qu'on passe. J'ai un peu pris la fin, là, pardon.
Non, pas de problème, oui, effectivement. Alors, sur cette question faune et flore ordinaire, en fait, je trouve que c'est une question intéressante à se poser, encore une fois, dans, à travers la perspective de Thoreau, en ce sens qu'aujourd'hui, et c'est ce que vous rappeliez en introduction, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a finalement deux corpus qui se sont développés, qui renvoient d'une part à des questions de philosophie animale au pluriel, et puis un peu plus récemment un ensemble de travaux qui renvoient à une réflexion sur le végétal, y compris au sein des éthiques environnementales, il y a eu souvent une forme de scission entre ces approches. Sur des bases parfois justifiées, c'est-à-dire qui tendaient à souligner le fait qu'il ne s'agirait pas de développer une forme de zoocentrisme qui remplacerait l'anthropocentrisme, c'est-à-dire finalement de négliger les plantes, de sortir de l'anthropocentrisme pour s'intéresser aux animaux, mais de négliger les plantes par ailleurs. Donc ça conduirait à oublier les plantes et d'une certaine façon, toutes les recherches menées sur le végétal actuellement visent à corriger ce biais en faveur des animaux. Et inversement, on a pu constater récemment, je pense notamment au livre de Florence Burga sur qu'est-ce qu'être une plante, donc Florence Burga qui est spécialiste des questions animales, et qui a écrit un livre qui voulait réaffirmer tout de même cette différence entre des formes de vie animale et des formes de vie végétale, pour éviter justement que l'on tombe dans une sorte d'indifférenciation. Et alors, moi, ce qui me semble intéressant avec Soros, c'est qu'il s'intéresse à toutes les dimensions de la nature, c'est-à-dire, il y a un texte dans le journal où il dit « Je vis en plein air à la fois pour le végétal, pour l'animal et pour le végétal qui est en moi ». Donc, il y a vraiment cette approche dans toutes les dimensions de la nature, mais qui est une approche qui fait droit à la diversité des expériences, à la diversité des formes de vie. Et je crois que cette façon de rencontrer toutes ces figures de l'altérité non humaine, avec la curiosité et l'attention dont témoigne Soros, c'est quelque chose qu'on peut retenir pour ne pas opposer, disons, l'approche des plantes et l'approche des animaux, mais pour bien adopter cette attitude, cette considération développée à l'égard de la diversité des formes de vie. Donc, il faut se montrer attentif à la spécificité du végétal, je crois, mais pas nécessairement opposer les deux. Sur cette dernière question, effectivement, en fait, bon, ça intervient, c'est un peu la conclusion de l'ouvrage, où en fait, cette question de l'opposition entre alors, ces figures du jardinier et du paysan, en fait, c'est une question qui me semble accompagner tout le développement de la réflexion sur la protection de la nature. D'un côté, les protecteurs de la nature soucieux de la nature sauvage, de l'autre, des paysans qui, eux, connaîtraient le travail de la terre et envisageraient de façon tout à fait différente, sous un angle plus disons, utilitaire, leur rapport à la nature. Or, tout l'enjeu, précisément, c'est de souligner le fait que, en deçà des discours savants, en deçà des discours des agronomes et des physiocrates, par exemple, au XVIIIe siècle, eh bien, on se rend compte que les paysans développent eux aussi un rapport qui n'est pas simplement utilitaire à la nature, qu'il y a une façon aussi de s'intéresser à la dimension esthétique, également à certaines formes, à certaines considérations éthiques, que cette diversité des manières de se rapporter à la nature, elle a été mise à mal très fortement par ce moment de modernisation de l'agriculture, où au fond, la monofonctionnalité, le productivisme ont considérablement réduit la possibilité d'exprimer cette pluralité. Et donc, en fait, il me semble que plutôt que de les opposer, tout l'enjeu du point de vue des questions environnementales qui se posent aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt de les réunir, ces deux figures, de ne pas opposer le jardinier au paysan. C'est pour ça que bon, la figure de Gilles Clément est assez intéressante dans cette idée du faire avec que l'on peut décliner à la fois sur un plan esthétique avec son travail de paysager, mais aussi que l'on peut entendre dans une perspective agroécologique, dans une perspective d'agriculture biologique. Et donc, on peut trouver des points de convergence entre ces figures du jardinier et du paysan qui permettent de dépasser cette opposition stérile et souvent caricaturale entre le paysan et le jardinier.
Merci beaucoup, Rémi. Alors, on commence à avoir des questions dans le fil. Il y en a deux qui ont un point commun, c'est de parler de la ville, en fait. Alors, la première était celle de Juliette Paoli, que je vais lire. Elle est un petit peu longue, mais comme ça, tout le monde aura le temps de s'en imprégner. Je pense que l'aspect attention, il a déjà été traité, mais là, je pense que c'est plutôt l'enjeu politique et son application à la ville. Sur la question de la ville, je me bats en tant que simple citoyenne depuis longtemps dans ma ville, moins de 8000 habitants, pour le respect des plantes sauvages qui poussent en ville, sur les talus, les parcs et dans les espaces considérés comme plus sauvages. Sur le fond, je n'ai pas vraiment d'écho, car la question est justement le fond incompris de nos édiles et de nos citoyens. Face à cette mécompréhension, non-conscience, comment voyez-vous les choses ? Là aussi, nous avons besoin d'une reconfiguration des regards, nos cohabitants, notre mixité. Dans nos villages d'antan, la haie n'étant pas loin, elle contenait tant de plantes aux vertus oubliées. Et puis, je peux peut-être rapprocher celle de Lucie Tantin. Concernant de possibles pistes de changement pour le futur, que pensez-vous de l'actuel mouvement de réintégration de la nature en ville ? N'est-ce pas une nouvelle forme de contrôle sur le vivant, du contrôle du vivant, qui ne va donc pas dans le sens d'une plus grande attention au vivant, mais traduit plutôt une volonté utilitariste de profiter des bienfaits des éléments naturels dont on a longtemps pensé que l'on pouvait se couper ? Voilà, peut-être ces deux questions.
Oui, sur la nature en ville. Alors c'est vrai que parmi les espaces dans lesquels on peut penser cette idée de se montrer plus attentif à la nature ordinaire, eh bien il y a les villes, parce que les villes, même si ce sont les espaces par définition les plus anthropisés, eh bien abritent aussi une diversité de plantes et d'animaux. Et de ce point de vue-là, bon, je rejoins le fait que l'on peut constater les difficultés que l'on rencontre pour essayer de faire place un tout petit peu plus à cette nature spontanée au sein de nos villes. On a pu voir, alors si on veut réfléchir à partir de l'actualité la plus récente, hein, on a pu voir des réflexions, des considérations sur la façon dont ce que certains écologues ont commencé à appeler l'anthropose, PAUSE, donc la pause des humains et les effets de cette anthropose sur nos espaces de vie, on a pu avoir des considérations sur le fait qu'on voyait une végétation spontanée réapparaître, que cela suscitait une diversité de réactions, mais bien souvent des réactions négatives, encore une fois. C'est-à-dire que autant l'intrusion de certaines espèces animales dans les villes que l'on n'est pas habitué à voir ont pu faire les titres des journaux et puis déclencher des rires amusés, autant les premières choses, en tout cas dans la plupart des villes, les premières choses qui ont été faites dès que l'on est sorti du premier confinement, c'est de justement couper toutes ces herbes qui avaient poussé et donc retrouver cette sorte d'esthétique du propre qui continue à diriger, disons, à configurer notre regard sur la nature hors de contrôle en ville. Alors, ce poids encore du regard négatif porté sur cette nature sauvage en ville, il est quand même contrebalancé par une tendance de plus en plus soutenue en faveur des friches, et en particulier en faveur des friches urbaines. On a pu voir, alors c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui sans doute connaît une popularité plus grande aujourd'hui, les travaux d'écologues qui s'intéressent à la flore urbaine, qui font, on a vu des flores des friches urbaines qui occupent des places bien en vue dans les librairies, donc qui témoignent d'un intérêt pour cette flore. Donc c'est un mouvement qui vient contrebalancer ce regard négatif, mais je dirais que le regard négatif, je partage la réflexion qui a été faite, il est encore largement prédominant. Sur la nature en ville, bah, en fait, Il y a une diversité de façons de penser ce qu'on appelle la renaturation, le verdissement. En fait, ça peut être des façons très, très différentes parce que, bah, par exemple, laisser plus de place aux friches existantes plutôt que, dans une logique de la table rase, refaire un écoquartier, par exemple, bah, ça peut être, ce sont deux façons très différentes de penser l'introduction de la nature en ville. Et donc, il y a sans aucun doute dans certains projets de verdissement, de renaturation des villes, des projets qui sont toujours dans une logique de contrôle. Et donc, là, il n'y a pas un seul type, une seule façon, une seule conception de la nature en ville. Ça, c'est assez clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, sur le plan scientifique, de plus en plus de recherches menées sur les façons de procéder à des formes de renaturation, des recherches d'écologie sur la façon dont on peut envisager des toitures écologiques, des choses comme ça. Et là encore, différents types de modèles, certains très techno, d'autres qui sont plus proches d'un faire avec ou d'un laisser faire la nature en ville, en tout cas de plus de libre évolution, quoi.
Merci Rémi. Alors le marathon continue des questions. Alors il y avait une question, je pense que ça doit être d'Ornella Bon, qui demandait comment sortir de nos valeurs intrinsèques pour approcher celles de la nature, mais je pense qu'il faudrait simplement expliquer ce que veut dire en éthique valeur intrinsèque, parce que je ne crois pas que vous avez proposé une opposition.
Oui, en fait, là, j'ai évoqué cette idée de ce concept de la valeur intrinsèque, en fait, qui était le point de départ du développement des éthiques environnementales. En fait, les éthiques environnementales contestaient l'idée très largement dominante, en tout cas dans la philosophie morale moderne, selon laquelle seuls les êtres humains ou les êtres rationnels étaient dotés d'une valeur intrinsèque, c'est-à-dire comptent pour eux-mêmes, sont des fins en soi, tandis que le reste des choses, justement, y compris les choses de la nature, eh bien, n'ont que une valeur en quelque sorte instrumentale, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas pour eux-mêmes, mais pour, en dernière instance, l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour les porteurs de valeurs intrinsèques. Donc, les éthiques environnementales ont voulu contester cette restriction, cette limitation de la valeur intrinsèque aux seuls humains, en affirmant l'idée selon laquelle certains, tout du moins, êtres non humains dans la nature ont une valeur intrinsèque. Et il y a une diversité de façons de penser cette extension, disons, de la valeur intrinsèque, cette reconnaissance de la valeur intrinsèque dans la nature. On peut penser à la valeur intrinsèque de certains animaux, du point de vue de l'éthique animale. On peut penser à accorder une valeur intrinsèque à tous les êtres vivants, ou accorder une valeur intrinsèque plutôt à des ensembles écologiques. Ça conduit à une diversité de sous-courants au sein de ces éthiques environnementales. Mais donc, il ne s'agit pas d'opposer valeur intrinsèque humaine et valeur intrinsèque de la nature. Il s'agit plutôt de contester la limitation, au fond, de la considération morale aux seuls humains.
Merci. Alors, il y a une question d'un certain Philippe Monchaud d'Amiens que je connais, donc que je salue, alors je pense que là aussi, ça méritait, je ne pense pas que c'est ce que vous avez voulu dire, mais il écrit « Les paysans comme les jardiniers ne sont pas des entités homogènes ». Donc,
Oui, non, mais c'est très juste de le rappeler, effectivement, là, en évoquant cette figure, ces deux figures qui étaient un peu des figures pour la pensée plus que renvoyant à la diversité des jardiniers et à la diversité des paysans, effectivement, puisque y compris chez les jardiniers, on a pu voir, alors bon, ça, il y a énormément de travaux, hein, sur la diversité des pratiques de jardinage et des façons de penser le jardin, des conceptions du jardin. Donc tout ça, il faut introduire beaucoup de, il faut être beaucoup plus prudent que ce que je l'ai été dans là dans ma conclusion. Il faut réintroduire de la diversité. Je rajoute de ce point de vue-là aussi que, en fait, cette enquête théorique, elle prétendait pas faire non plus œuvre. Lorsque je me suis penché, par exemple, sur le discours des agronomes, elle prétendait pas faire œuvre d'historien, c'est-à-dire qu'il s'agissait de s'appuyer sur un grand nombre de travaux d'historiens qui ont pu être menés pour essayer de penser cette évolution, mais bien de la penser, disons, en tant que philosophe et non pas qu'historien. Donc il n'y avait pas de prétention à développer un travail d'historien, bien sûr. Et de se substituer aux historiens, mais plutôt de s'appuyer sur ces savoirs, d'essayer de les mobiliser pour éclairer aussi une réflexion d'éthique environnementale qui a pu prendre parfois une orientation très théorique sur de réflexions un peu abstraites sur la valeur et d'essayer de montrer comment on pouvait nourrir cette réflexion philosophique et théorique, eh bien de considérations un peu plus empiriques.
Alors, si certains ont le doigt prêt à cliquer leur question, c'est maintenant ou jamais, parce que la question de Philippe Manchot était pour le moment la dernière. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Alors, Laurent Châtel. Bonjour, il a beaucoup été question de cécité, mais n'est-il pas risqué de glisser vers l'incrimination ou la téléologie? Même si on évite les caricatures et qu'on ne laisse pas entendre que les agriculteurs sont devenus aveugles, pourquoi finalement parler de cécité? Alors, c'était surtout mon terme, hein, ce n'était pas celui de Rémi. N'est-ce pas typique du cycle des temps qu'après une période, une phase en suit une autre et par conséquent, notre vision actuelle doit beaucoup à la posture précédente, tel un retour de balancier?
Alors, je pense que l'objectif, c'est pas d'incriminer des acteurs et encore moins, et c'est un peu l'objet de ma conclusion, encore moins les agriculteurs, dans la mesure justement où la partie où je reviens sur cette période de la modernisation, disons, du deuxième moitié du XXe siècle, montre bien comment, au fond, elle s'est faite pour partie indépendamment de la volonté de ces agriculteurs qui ont été engagés dans des réorientations pilotées par en haut de ce point de vue-là. Donc il ne s'agit pas de les incriminer, il s'agit de réfléchir sur la manière dont, collectivement, hein, et pas simplement une catégorie de la population, eh bien, peu à peu, on a pu se montrer de moins en moins attentif à la présence des animaux, des plantes parmi nous. Je dis ça, par exemple, en fait, si on se réfère au moment où écrit Soros, ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on relit son journal, c'est de constater qu'en réalité, il y a un goût assez prononcé au sein en tout cas, des habitants de Concorde pour des questions de botanique, pour en fait, des gens viennent le voir, le conduisent pour lui montrer une plante, pour partager une découverte. Et donc, il y a un intérêt assez largement partagé chez ses concitoyens pour des questions de botanique et pour la faune et la flore qui environnent leur milieu de vie. Et c'est vrai que, et c'est souligné dans les travaux aujourd'hui et aussi dans les travaux sur les végétaux, bon, dans, si on pense à notre éducation, eh bien, la question de savoir nommer les plantes qui poussent dans les espaces, dans nos espaces de vie, eh bien, ne se pose pas. En fait, nous connaissons très peu les plantes qui poussent à côté de chez nous. Nous ne nous en nourrissons plus. Et ça, là aussi, il y a des penseurs qui invitent à redécouvrir les pratiques de consommation de plantes sauvages. Mais on trouvait déjà ce type d'invitation chez Thoreau. Mais donc, ce n'est pas une incrimination, c'est une façon dont l'hypothèse est que peu à peu, cette nature se soit invisibilisée. Est-ce que c'est une question de cycle Je ne sais pas ce que ça rejoint peut-être la question du temps qui avait été posée et à laquelle j'ai pas répondu, que Gabriel avait évoqué. En tout cas, ce qui me semble assez intéressant du point de vue de cette notion de cycle, j'aborderai un peu différemment, c'est de se dire que peut-être dans nos manières de faire, et en particulier dans nos manières de penser la modernisation agricole, par exemple, on a un peu écarté cette dimension cyclique du temps au profit d'un temps, d'une pensée d'un temps linéaire qui est celui de la modernisation, qui est celui de la flèche du progrès, et qu'on s'est peut-être montré moins sensible à cette dimension cyclique du temps de la nature, et que l'un des enjeux pour se poser cette question de comment fait-on aujourd'hui dans un contexte où la dégradation, l'accélération de la dégradation de la nature se pose et puis nous inscrit dans un temps long, en plus avec cette introduction dont Gabriel évoquait la notion d'anthropocène, sur comment fait-on pour penser l'anthropocène, qui nous oblige à penser le temps long, eh bien, essayer de repenser la composante, la dimension cyclique du temps, et pas simplement cette dimension linéaire d'orientation d'une trajectoire tendue vers le progrès, elle me semble assez nécessaire. Et je renvoie par exemple aux travaux de Bernadette Binceau de Vincent sur ces questions de sortir du piège de la flèche du temps. Il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait explorer avec profit pour repenser ce rapport à la nature proche.
Alors, visiblement, votre interlocuteur est satisfait de la réponse. L'échange permet d'avancer. Alors, Juliette Paoli, en revanche, revient sur la question de comment, qui était déjà implicite dans la précédente, hein, comment doivent s'opérer les changements de mentalité. Elle livre comme hypothèse par des livres tels que le vôtre, que je trouve formidable, ou par d'autres biais. Alors voilà, donc maintenant Rémi, vous êtes à l'épreuve.
En fait, non, mais c'est évidemment une question importante, et je n'ai pas la prétention de croire que un livre, et encore moins le mien, pourrait changer, enfin suffire pour changer. Je pense par contre que, alors ça, c'est des choses auxquelles je m'intéresse par ailleurs sur des questions aussi de formation, de repenser la formation sous l'angle de la transition écologique et sociale. J'ai participé à des travaux récemment sur ces enjeux de refonte de nos enseignements, en particulier avec une institution qui s'appelle le Campus de la Transition, qui cherche à repenser nos manières d'enseigner et de nous former sur ces enjeux. Et sur le plan plus précis de mon travail, je dirais que une des façons d'opérer ces changements, c'est peut-être d'envisager, alors ça je l'ai mais dans quelques articles, envisager l'éthique, revenir à une idée de l'éthique comme un travail de transformation sur soi. C'est encore une fois, on en revient à Gabriel au transcendantalisme et à Thoreau, et surtout et aux réinterprétations qu'avait pu en proposer quelqu'un comme Pierre Hadot du travail de Thoreau sur cette idée d'un certain nombre d'exercices au fond qui permettent de nous montrer plus attentifs au monde et dans une forme de perfectionnisme moral, de cultiver cette attention et de mieux nous relier au monde. Alors, de ce point de vue-là, bon, cultiver l'attention à la nature ordinaire, se pencher, essayer de mieux la connaître, de mieux la nommer. On a évoqué cette importance des noms, Gabriel l'a souligné, dans les pommes sauvages de Soros, ce qui est, il y a aussi tout un passage fascinant où Soros s'amuse, alors il est très connaisseur de l'inné, il s'amuse à donner des noms, à inventer des noms pour chacune des pommes sauvages, et je vous invite à aller lire ce passage parce qu'il est vraiment assez, assez fantastique, et cette idée de, voilà, de reconnaître les plantes, les arbres qui nous environnent en leur donnant des noms, c'est une manière de se transformer soi-même aussi. Et c'est une manière de, bah, peu à peu, de mettre en œuvre cette transformation.
Alors, donc on a une suggestion de Marion Roy de nous intéresser à l'événement d'Arras, effectivement, l'attention au vivant, donc nous y serons attentifs justement. Laurent Châtel poursuit l'échange. Une solution qui n'est pas facile, ce serait de communiquer avec les maires des communautés pour rappeler l'intérêt de ne pas couper, tailler et de laisser agir, mais ce n'est pas facile, en effet. Angèle Ducatillon vous demande si vous faites le lien avec le courant d'écologie décoloniale. Vous parliez au début du fait que dans la conception de la wilderness, il y avait un déni des pratiques et modes de vie des peuples indigènes, notamment. Je pense notamment à la critique de la distinction sauvage-civilisée qui a justifié la colonisation et dont on peut faire l'analogie avec le fait de qualifier des plantes ou la nature comme sauvage. Accorder de l'attention à une nature ordinaire sauvage est-il suffisant ou bien est-il possible de dépasser la distinction sauvage-contrôle ? Oui, effectivement, sur ce terme de sauvage et ses différents sens, merci de nous mener à cette question.
Oui, c'est une question importante. Le lien, au fond, le point de départ, il peut être celui de la critique de l'idée de wilderness que je rappelais, qui a vraiment fait l'objet d'un débat important hein, au sein de la pensée environnementale, qui l'une des critiques extrêmement fortes, c'était la façon dont certaines politiques de protection de la nature qui se basait sur cette conception de la nature sauvage sans les humains, a pu être imposée non seulement aux États-Unis, d'où les Amérindiens ont pu être expulsés de certains parcs protégés, mais aussi dans d'autres pays, en particulier dans des pays du Sud, où on a pu imposer cette conception de la nature sauvage au prix de conséquences sociales extrêmement, extrêmement néfastes. Et également, cette question de la wilderness posait la question coloniale. C'est-à-dire que dès le départ, cette façon d'envisager la rencontre avec une nature sauvage, mais aussi avec des humains associés, ensauvagés d'une certaine façon, enfin considérés comme sauvages, était éminemment problématique. D'où cette importance, l'importance de repenser une conception du sauvage débarrassée, au fond, de cette gangue colonialiste. De ce point de vue-là, alors vous faites référence au courant d'écologie décoloniale et sans doute pour partie au livre important de Malcolm Ferdinand sur ces enjeux d'écologie décoloniale. C'est l'une des voies, disons, particulièrement fertiles pour repenser, disons, des façons de cohabiter avec les non-humains qui ne reproduisent pas des stratégies de domination anciennes, disons. Et qui permettent de faire le lien, de dépasser ces oppositions entre protecteurs de la nature militants en faveur de plus de justice sociale, par exemple, ou d'enjeux plus politiques. Il est temps de dépasser cette opposition pour pouvoir penser ce qu'on appelle aujourd'hui hein, d'autres manières d'habiter la Terre. Et ces manières d'habiter la Terre, elles doivent inclure à la fois une considération pour les êtres partiellement, disons, les êtres non humains qui cohabitent avec nous, et bien sûr pour les enjeux sociaux, pour les enjeux de justice environnementale. Mais tout ça ne doit pas être opposé, je pense. Alors bien sûr, accorder une attention à la nature ordinaire ne suffit pas pour régler tous les problèmes du monde. Ça, c'est évident et il faut pas s'en tenir à ça, ni même pour résoudre tous les problèmes environnementaux. Mais c'est une façon de poser la question, et c'est une façon parmi d'autres de poser la question.
Merci Rémi. Alors, Juliette Paoli, l'art a-t-il sa place dans ces questions? Et nous fait part du fait qu'elle pense que oui.
je dirais oui aussi, que oui, l'art a bien sûr sa place dans cette question, beaucoup de choses qui se font du côté de ce qu'on appelle l'art environnemental ou un art écologique. Il y a d'ailleurs des choses très différentes, des choses plus contestables que d'autres aussi. Moi, ce que je pourrais dire plutôt, c'est dans le champ de ce qui relève de l'esthétique environnementale, où en réalité... beaucoup de réflexions d'éthique environnementale sont liées à une dimension, à une approche esthétique aussi. On n'a pas le temps de véritablement développer, mais toute l'idée de préservation de la nature sauvage, notamment de la wilderness, est inspirée par une représentation, enfin par une esthétique du sublime, par une esthétique romantique de la nature, par de l'expérience et de la représentation de cette nature sauvage, comme on trouve par exemple aux États-Unis chez les peintres de l'école de l'Hudson River. Et on voit comment aujourd'hui participe aussi d'une certaine revalorisation de cette nature plus ordinaire, eh bien, des travaux de plasticiens, mais aussi de jardiniers. Finalement, le travail de Gilles Clément, c'est un travail aussi artistique. Et donc, il y a bien, c'est un des leviers extrêmement importants de ce point de vue-là, mais parmi bien d'autres, on peut penser à l'architecture aussi, qui est un enjeu. Donc cette rencontre aussi entre l'architecture et le paysagisme et les pratiques de jardinage, c'est sortir de la logique de la table rase à chaque fois pour reconstruire, mais plutôt établir une continuité dans le faire avec. Enfin, tout ça, il y a une grande diversité de manières d'aborder ce problème. Et l'art en est une.
Merci. Alors, il y a beaucoup de remerciements de gens qui partent et je crois qu'on arrive au bout des questions. Donc, peut-être au bout de l'énergie de Rémi, je n'en sais rien, il en a eu beaucoup. Donc, je conclue en remerciant tout le monde, évidemment Rémi Beau, mais aussi tous les gens du public hein, pour vos questions très pertinentes et qui ont vraiment permis de compléter le propos. Je ne sais pas si Constance ajoute un mot. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je dis au revoir à tout le monde.
Je voulais remercier le public, bien évidemment, et remercier également Rémi et Gabriel. J'ajoute pour ceux qui n'auraient pas lu encore le programme dans son intégralité que la semaine prochaine, il y a deux conférences. Pourquoi philosopher avec le végétal mardi midi et penser et agir avec la nature vendredi après-midi. Voilà, Je vous souhaite à tous un bon après-midi. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Et merci beaucoup, Gabriel, Constance, et puis tous les participants.
Merci.
Au revoir.